VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est 19h en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information ce dimanche 30 avril 2023. À la présentation, Jacques Aristide. L'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan annoncent prolonger pour 72 heures une trêve globalement non respectée, mais qui a permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers et de poursuivre les négociations. Cette prolongation, sous médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, intervient quelques heures avant l'expiration ce dimanche à minuit de ce cessez-le-feu qui avait duré 3 jours, a indiqué l'armée dans un communiqué. Au Nigeria, 8 présumés séparatistes suspectés d'avoir mené la semaine dernière une attaque meurtrière dans l'état d'Imo ont été arrêtés, indique la police locale aujourd'hui. Le mouvement des peuples autochtones du Biafra, qui milite pour un état séparé pour l'ethnie Igbo et sa branche armée, le réseau de sécurité de l'Est, sont actifs dans la région. 4 policiers en patrouille ont été tués lors de cette attaque perpétrée la semaine dernière et des balles perdues ont tué 2 civils. 8 agriculteurs ont été tués aujourd'hui dans une attaque attribuée au groupe armé Codeco dans 3 villages du nord-est de la République démocratique du Congo. La milice communautaire a attaqué les localités de Douviéré, Ndjalo et Bengi. D'après Adubango Givia, chef du groupement Sumbuso dans le territoire de Djougou, dans la région de l'Ituri, une femme figure parmi les agriculteurs qui ont été tués par balle avant d'être découpés à la machette. Toujours selon le chef de groupement de village, les hommes de la Codeco ont également incendié une centaine de maisons et pillé du bétail et des produits champêtres. Adubango Givia plaide pour le déploiement de l'armée congolaise pour sécuriser la population et mettre fin au massacre dans son entité située au nord de Bounia, chef-lieu de l'Ituri. La Codeco affirme protéger la tribu Lendu face à la communauté Ema qui, elle, est défendue par une autre milice, les Zaïre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Doha, réunion cruciale sur l'Afghanistan, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a convoqué une rencontre à partir de demain dans la capitale du Qatar afin de se pencher sur l'approche à adopter à l'égard du gouvernement taliban au moment où la mission de l'ONU se complique en Afghanistan. À Doha, des pourparlers avec des représentants d'environ 25 pays et organisations internationales se tiendront dans un lieu tenu secret en absence des talibans qui ont pris le pouvoir en août 2021. Un groupe de femmes a manifesté hier à Kaboul pour s'opposer à toute reconnaissance internationale du gouvernement taliban, mais l'ONU et les puissances occidentales sont catégoriques. Ce dossier n'est pas à l'ordre du jour de la réunion. Le Parlement iranien a voté aujourd'hui la destitution de Reza Fatemi Amin, le ministre de l'Industrie, en raison de la flambée des prix au moment où l'économie de la République islamique subit de plein fouet les effets des sanctions internationales. Avant le vote, le président Ebrahim Raisi a pris la défense de son ministre, appelant à la stabilité dans la gestion du ministère. Justement, le président iranien se rendra ce mercredi en Syrie pour une visite d'État de 2 jours à l'invitation de son homologue syrien Bachar al-Assad. Dans un contexte de réchauffement diplomatique général au Moyen-Orient, le voyage d'Ebrahim Raisi revêt une grande importance en raison des changements et des développements en cours dans la région, affirme Hossein Akbari, l'ambassadeur d'Iran en Syrie. Elle sera bénéfique non seulement pour Téhéran et Damas, mais aussi pour d'autres pays de la région, ajoute-t-il. Le président iranien sera la tête d'une délégation économique et politique de haut niveau lors du déplacement. Au Portugal, une fusillade a fait 4 morts à Setúbal, près de Lisbonne aujourd'hui. La tuerie serait liée à un conflit entre colombophiles. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur de la fusillade figure parmi les victimes. À l'origine de cette affaire, il y aurait un conflit parmi les membres d'un groupe de colombophiles âgés de 40 à 60 ans, mais les circonstances du drame restent à déterminer. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Jacques Aristide à Washington. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre bulletin d'information. Très bonne soirée sur VOA Afrique. Très bonne écoute. À tout à l'heure. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. Josèle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons d'un voyage vers la Mecque et vers Riyad. L'expérience de mes deux collègues qui vont partager avec vous, avec nous, leurs impressions et le pèlerinage à la Mecque, appelé le Hajj en arabe, est l'un des cinq piliers de l'islam et constitue une expérience spirituelle majeure pour les musulmans du monde entier. Pour les musulmans, ce voyage est une occasion de renouveler leur engagement envers leur foi, de se rapprocher de Dieu et de se connecter avec d'autres croyants de différentes cultures et nationalités. Et chaque année, il y a des millions de pèlerins qui se rendent à la Mecque pour accomplir les rites du Hajj qui remontent à l'époque du prophète Mahomet. Je suis dans ce studio avec Kadiatou Traoré. Bonsoir Kadi.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue Religion de la Voix de l'Amérique. Je suis très très heureuse encore de retourner là sur le plateau de partager la petite expérience que j'ai eue pendant mon passage à la Mecque.
Merci Kadi pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Timothée Donangmaï qui y a visité Riyad il y a quelques mois. Timothée, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs.
Vous n'étiez pas parti pour le pèlerinage?
Non, en tant que chrétien, bon, c'est pas permis d'aller à la Mecque, mais moi j'étais plutôt à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite.
Justement, mais une occasion unique de découvrir les lieux saints de l'islam, n'est-ce pas, et de vous immerger dans une culture riche en traditions et en histoire.
Oui, pour ce qui est des lieux saints, on va laisser Kadi en parler puisque c'est elle qui a visité les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. En ce qui me concerne, je n'avais jamais pensé visiter l'Arabie Saoudite. Quand on parle du Moyen-Orient, on voit surtout le Koweït, on voit Dubaï. Mais pour les non-musulmans, l'Arabie Saoudite, c'est presque un sens interdit en quelque sorte. Mais l'occasion nous a été donnée avec ma famille de visiter Riyad, la capitale. Alors, il se trouve que en 2020, notre fille aînée, qui est diplomate, a été affectée à l'ambassade américaine à Riyad. Donc c'est ainsi que, avec toute la famille, mon épouse et nos trois autres enfants, nous sommes allés passer deux semaines pour moi et notre grand-fils et un mois pour le reste de la famille à Riyad.
Ah oui. Et vos impressions générales sur la ville de Riyad?
Alors, il faut d'abord dire que on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais mon épouse et ma petite fille ont acheté des voiles et tout pour être prêtes à toute situation. Et il faut déjà dire que nous avions passé la nuit en Turquie, à Istanbul. Et au décollage d'Istanbul, déjà, on entend dans les haut-parleurs de l'avion les prières musulmanes et religieuses et tout. Donc, bon, on s'attendait pas à quelque chose en particulier. On savait que c'était un pays conservateur sous bien d'aspects. Mais on a été, je dois l'avouer, agréablement surpris à l'arrivée, à commencer par l'aéroport où nous avons été accueillis par une jeune fille, une policière des frontières qui a d'ailleurs étudié ici aux États-Unis. Donc elle parle parfaitement l'anglais. Elle nous a tout de suite mis à l'aise. Et puis, bon, on a très rapidement remplir les formalités. Et même en sortant, les autres policiers qui étaient là, quand ils ont su que nous venions des États-Unis, tout le monde voulait nous parler en anglais. Donc, ça nous a beaucoup détendu. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Riyad.
Kadiatou, comment as-tu ressenti ta première visite à la Mecque?
Eric, ça c'est une question dont la réponse est trop forte pour moi en tant que musulmane. C'était une émotion. D'abord, moi, c'est de manière assez prévue que je suis allée. J'étais allée au Qatar, à Doha, pour une conférence là. Et donc, c'est à la fin là que j'ai eu des informations pour me dire que là où je suis n'est pas très loin de là-bas. Et donc,
c'était la porte à côté.
C'était la porte à côté. Et donc, automatiquement, j'ai pris des renseignements. Effectivement, c'était la porte à côté. Et donc, j'ai pris des renseignements et puis automatiquement, je me suis enregistrée et j'ai pris un billet d'avion. Et qui m'a coûté à peu près $400 à peu près, et j'ai pris l'avion pour aller à Jeddah le lendemain, et de Jeddah maintenant j'ai fait un taxi pour aller à la Mecque. Et donc le sentiment en tant que musulmane, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre réellement pour pouvoir vraiment le raconter. Mais même si je le racontais, est-ce que je vais pouvoir le dire assez? Parce qu'il faut le sentir. En tout cas, ce que moi j'ai remarqué déjà à l'arrivée, c'est que c'est quelque chose qui est trop fort, qui est assez fort, même en voyant seulement la Kaaba, en voyant cette pierre-là, le cube, en voyant ça, ça lave ton âme. Vraiment, réellement. Ce que j'ai ressenti, c'est trop fort. J'ai pas de mots vraiment pour bien l'exprimer, quoi. J'ai pas de mots pour bien l'exprimer. Et en tout cas, c'est quelque chose que tous les musulmans doivent aller voir et passer par là, quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Est-ce que tu es transformé au moment où tu arrives là-bas ou tu te sens transformé juste après? Quand tu retournes chez toi.
Du moment que tu arrives, tu es transformé. Toi-même, quand j'étais là, tu me regardais d'une manière et en me disant que j'ai comme l'impression que tu n'es même plus la même personne. Je ne sais pas, peut-être mon accoutrement, je me suis couverte, j'ai pris le hijab. En tout cas, je ne sais pas. Les gens me regardent et puis me disent que tu n'es plus, on ne sent plus la même personne, quoi.
Mais tu n'es pas métamorphosé.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais quand même, c'est quelque chose qui te ramènera sur la voie d'une certaine sagesse et d'une certaine purification. Hein. C'est comme tous les pèlerinages, quoi. Quand on va pour faire le pèlerinage, dans le cœur même, le fait même de prendre l'intention de faire... Dieu même te met sur une certaine voie et qui vraiment qui t'amène à, sur une certaine sur la route d'une certaine sagesse, quoi. C'est ce que je peux dire.
Tim, toi et ta famille, donc vous avez cette opportunité de vous rendre à Riyad et de vous familiariser avec cette culture saoudienne, et je dirais même qui est dominée par une religion, l'islam,
tout à fait
différente de la vôtre, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre les croyances et les pratiques des musulmans?
Alors, Eric, il faut dire que moi, j'ai grandi à Garoua, qui est dans le nord du Cameroun, et qui est une ville musulmane. Donc, j'ai vécu en milieu musulman, j'ai des amis et même des parents musulmans, donc je suis très familier avec la culture musulmane, je suis très à l'aise en milieu musulman. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas une grande différence par rapport à ce que j'ai vécu en Afrique et même ici avant d'aller à Riyad. Mais comme je l'ai dit, l'accès des deux villes saintes de l'islam, à savoir la Mecque et Médine, l'accès est interdit aux non-musulmans et ça c'est la loi saoudienne. Donc là il y a pas de débat du tout. Nous sommes arrivés et nous attendions, en tout cas moi je m'attendais à une société très conservatrice et sous beaucoup d'angles, l'Arabie Saoudite l'est toujours. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu que la loi sur l'habillement des femmes, par exemple, a beaucoup évolué. nous sommes sortis avec mon épouse et mes filles et elles n'avaient pas le voile et nous sommes allés dans les supermarchés, nous sommes allés dans les centres commerciaux et tout cela et on n'a pas eu de problème du tout. Et on nous a fait savoir que la police des mœurs qui s'occupait de ce genre de situation a été dissoute. Donc maintenant, on peut voir à Riyad des femmes, des étrangères surtout, parce que les Saoudiennes elles-mêmes, c'est leur tradition, donc elles sont vêtues de ces boubous intégraux, là.
Le hijab.
Le hijab et autres. Mais sinon, on peut croiser beaucoup de femmes d'autres nationalités, des Éthiopiennes, des Philippines. Il y en a beaucoup là-bas qui travaillent comme nanny, qui travaillent comme ménagères chez les habitants saoudiens. Et là, on peut les voir. On en a vu, par exemple, à l'aéroport, on a vu une nanny en jean et t-shirt en train de pousser un bébé. Donc, de ce côté-là, les choses ont vraiment changé. Et je crois que les Saoudiens, les autorités saoudiennes tentent d'ouvrir le pays au monde, d'attirer les touristes. Donc, elles sont en train de changer un peu certaines règles sous certains aspects.
Oui, vous avez donc eu l'occasion d'interagir avec des habitants locaux. Comment cela s'est-il déroulé?
Bon, il faut dire que c'est pas facile de croiser les gens comme ça dans la rue parce qu'il fait Riyad, c'est dans le désert. C'est dans le désert, donc il fait extrêmement chaud. Et les gens passent la plupart du temps à l'intérieur. Et ce n'est que peut-être le soir vers 21h, 22h qu'on peut sortir faire un tour à pied. Et même là, on sent la chaleur qui sort du sol. Donc ça fait que les gens restent beaucoup plus à l'intérieur. Mais je me souviens qu'une fois, avec mon épouse et les enfants, nous avions acheté des vêtements saoudiens. Donc nous nous étions habillés comme des Saoudiens et nous allions dans un petit parc à côté de la maison de ma fille pour prendre quelques photos et on a croisé une famille saoudienne qui était dans une grande voiture et quand ils nous ont vus, ben, ils ont su que nous n'étions pas tout à fait des Saoudiens mais ils ont beaucoup rigolé, ils nous ont fait des signes amicaux. Donc on n'a pas, j'avoue qu'on n'a pas tellement eu l'occasion d'interagir avec les Saoudiens, mais quand nous sommes allés, par exemple, dans le centre commercial pour acheter les vêtements saoudiens, eh bien les marchands ont été très accueillants et il y en a même qui nous ont proposé des bouteilles d'eau glacée. Et c'est un geste très apprécié étant donné la chaleur qu'il fait là-bas. Donc et puis bon, il faut dire que les Arabes c'est des commerçants depuis toujours, donc ils ont le sens des relations avec les clients et tout ça. Donc en tout cas, c'est un pays qui mérite le détour.
Kadiatou, tu connaissais déjà l'histoire de la Mecque et l'importance de ces lieux saints dans l'islam. Est-ce que ta visite t'a apporté quelque chose de plus?
Oui, absolument, parce que même en tant que musulmane, voilà, la conception même dans la tête de comment l'Arabie Saoudite peut être, et même les lieux saints et tout ça, le comportement des gens quand ils font le pèlerinage et tout ça, Elle est tout à fait différente quand tu arrives là-bas. Parce que sur les lieux de pèlerinage, on rencontre toutes sortes de personnes venant de partout du monde. Moi, quand j'étais arrivée, c'est le petit pèlerinage qui se passe actuellement, normalement qui se passe pendant le mois de Ramadan. Et le Ramadan n'avait pas encore commencé. Mais déjà, la Mecque était pleine, c'était déjà full, c'était déjà rempli. Parce que ça faisait quand même, depuis la pandémie de la Covid, la vraie ouverture là, ça s'est passé cette année. Et donc ça faisait quand même 3 ou 4 ans que les gens n'ont pas eu l'occasion. Ils avaient totalement fermé pendant la pandémie. Et l'année dernière, ils ont ouvert et ça n'a pas été ouvert pour tous les pays. Et ils ont fait des sélections. Ils ont délimité le nombre de personnes qui devraient rentrer et sortir. Mais cette année, quand même, c'était la grande ouverture. Et donc, les pèlerins ont vraiment profité. Et tout le monde voulait profiter du maximum. Et donc, les gens sont venus d'ailleurs, de partout.
Et comment c'était cette expérience de rencontre, justement?
Il y a trop de monde, Eric.
trop de monde. Tu vois trop de monde. Il y a tellement de monde. J'ai jamais vu autant de monde de mes yeux. Jamais. De ma vie. Et c'est quand tu sors de ton hôtel, parce que j'étais juste à 10 minutes de la Kaaba même, la mosquée, et tu marches même des fois dans la rue avec toutes les difficultés parce qu'il y a trop de monde. Et ils ferment les rues. Ils ferment les rues, les voitures ne passaient plus. Et donc les gens sont obligés de marcher. Et en fait, le pèlerinage même, c'est marcher. Il y a beaucoup de marches. Faire 7 fois le tour de la Kaaba et aller faire les 7 fois aussi l'aller-retour là sur la colline et puis redescendre, des choses comme ça, c'est marcher. Mais c'est impressionnant. Ils ont tellement l'architecture même et ça continue à travailler. Ça continue, ils continuent toujours à travailler. Ils ont fait de manière que la mosquée, la Kaaba et même l'aller-retour là sur la colline que tu dois aller monter, tout est inclus dans la mosquée. Tout ça là, c'est à l'intérieur. Et avec des portes. Et si tu ne fais pas attention, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils ne sont pas habitués à voir beaucoup de monde, se perdent. Il y a beaucoup de portes, mais ils ont fait en sorte de numéroter les portes. Et quand tu comprends anglais aussi, les choses sont d'autant plus faciles pour toi. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que la plupart des gens parlent anglais. Les gardes qui sont là et qui dirigent les gens parlent anglais. Et quand tu te perds, tu parles anglais, tu te retrouves toujours. On a toujours des repères. Mais nos parents qui quittent les villages et qui viennent faire le pèlerinage, on les met comme ça dans une foule pareille. Ils n'ont jamais vu de telle foule. Des fois, ça traumatise des gens et ça les met même dans des situations pas commodes, quoi. Pas du tout commodes parce qu'ils n'ont jamais vu de monde comme ça. Et quand ils rentrent comme ça, là, dans la foule, ils se perdent. Et quand ils se perdent, c'est des traumatismes qu'ils ont. Il y en a qui passent par là. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Le vécu de ça, j'ai vraiment envie de retourner.
Oui, Tim, quelles sont les traditions islamiques que vous avez découvertes à Riyad, par exemple?
Bon, comme je l'ai dit, j'ai grandi en milieu musulman, tant au Cameroun qu'au Tchad. Donc je suis assez familier avec la culture musulmane.
Il n'y a pas de différence?
Bon, il y a quand même une différence. Comme je l'ai dit, Riyad, c'est dans le désert dont les gens vivent la plupart du temps à l'intérieur des maisons, si bien que c'est difficile de croiser les gens. Mais ce qui m'a marqué, c'est à l'aube, vers 3h, 4h du matin, lorsque... Et on entend les appels à la prière, comme il y a plusieurs, il y a des centaines de mosquées à Riyad. Donc on entend un muezzin lancer l'appel et puis un autre qui lance et ça se suit. Et quand on se réveille très tôt le matin et qu'on écoute ça, il y a quelque chose de paisible dans ces appels à la prière. C'est des voix très posées qui lancent ces appels-là. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
Donc comme vous étiez familier avec l'islam, vous l'êtes toujours. Votre voyage là-bas n'a pas changé, par exemple, votre perspective sur l'islam et les musulmans?
Bon, ce qui a changé, comme je l'ai dit, c'est cette évolution de la société saoudienne, par exemple, où maintenant c'est assez normal de croiser des gens, des femmes qui ne portent pas le voile, alors que dans le temps c'était obligatoire pour toute femme qui arrive en Arabie Saoudite, qui sort dans la rue à Riyad ou à Jeddah ou partout ailleurs, les femmes étaient tenues d'être intégralement voilées. Et ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Et beaucoup de femmes étrangères s'habillent normalement comme elles le feraient ici à Washington ou à New York. Donc ça, c'est quand même un aspect très intéressant, et d'autant plus qu'on voit que dans certains pays africains, il y a plutôt cette tendance au port du voile, et de plus en plus. Mais là, en Arabie Saoudite, je dirais que ce n'est plus obligatoire, en tout cas pas pour les étrangères. Et ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup marqué.
Kadi, vous dites que c'est un endroit à visiter, il faut aller faire le pèlerinage. Est-ce que vous avez déjà commencé à partager cette expérience avec les membres de ta communauté ou des amis?
Absolument. Et moi, je dirais même que j'étais parmi mes amis. J'étais la seule qui n'était pas partie faire ça. Parce que bon, enfin, je sais pas. Selon la tradition musulmane, on dit que c'est un appel de Dieu. Quand tu n'as pas été appelé par Dieu, tu peux pas partir. Donc ça, c'est une tradition. Et là, quand tu reviens, tu partages obligatoirement. Parce que même les conseils que tu peux donner aux gens et ta façon de faire les choses, en tout cas, je ne sais pas, il y a quelque chose que moi je peux pas. En tant que musulman, c'est trop fort et c'est à moi que je n'arrive pas à trouver le mot pour mieux le sortir et pour mieux l'exprimer. Vraiment, c'est le sentiment est trop fort. C'est trop fort.
C'est trop fort. Ce que vous avez fait, c'est la Omra, c'est pas le Hajj.
C'est la Omra que j'ai fait.
Oui.
Le Hajj n'est pas encore arrivé. Le Hajj, c'est dans deux mois et quelques jours après le Ramadan, ou ça vaut même 2 mois environ. Donc ça se célèbre pendant la Tabaski. Mm-hmm. C'est ça le grand Hajj, le grand pèlerinage, et qui comprend beaucoup de rituels, et plus que la Omra. Vous voyez, mais même pendant cette période de Umrah, et quand ils ouvrent pour la Umrah, ils laissent les gens partir sur tous ces lieux et faire tous ces rituels. Mais on appelle le petit pèlerinage parce que dans l'islam, c'est indiqué et pendant une période bien précise que le Hajj doit se faire à telle période. Donc c'est un peu différent. On dit le petit pèlerinage et puis le grand pèlerinage.
Il nous reste très peu de temps avant la fin de notre émission. Tim, est-ce que vous diriez que votre visite à Riyad a été aussi une expérience spirituelle?
Bon, disons que oui, quelque part, oui. Voir entendre les appels à la prière et tout cela, et bon, ça m'a rappelé à moi aussi que qu'il faut prier, qu'il faut continuer de prier. Et donc vu sous cet angle là oui, ça a été un éveil quelque part. Et aussi bon, être là dans le pays qui abrite les deux lieux saints de l'islam et voir que bon, ce n'est plus le conservatisme d'autrefois, c'est une société qui est en train d'évoluer. Ça m'a aussi beaucoup marqué.
C'est un des aspects les plus mémorables que vous gardez de votre visite. Kadiato, en quelques secondes, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui prévoit de faire le pèlerinage à la Mecque pour la première fois?
S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire sans hésiter. L'existence de Dieu, la croyance en Dieu, elle est là et elle est très forte. Et comme c'est recommandé à tout musulman qui ont les moyens d'aller le faire au moins une fois dans sa vie, et donc ce que je peux faire et ce que je peux dire, c'est de prier pour tous les musulmans que Dieu leur donne le moyen d'aller accomplir au moins une fois le pèlerinage dans leur vie.
Merci Kadiato pour votre contribution dans ce dialogue des religions après votre voyage à la Mecque. Merci aussi à Timothée Donangmaï qui a visité Riyad avec sa famille. Merci pour les différentes expériences que vous avez connues et que vous avez partagées avec nos auditeurs. Merci à Joselle Morissin qui a assuré la mise en onde. Eric Manelakis a été avec vous au micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À la prochaine.